Le 26 mai, vous voterez pour élire vos députés européens. Et tout commence ce soir avec ce débat entre les principaux candidats qui vont tenter de vous convaincre.
Quand la commission va dans le bon sens, je ne critique pas. Bah, je suis désolé, Florian Philippot, mais chronologiquement...
C'est la commission qui décide et vous, vous êtes derrière.
Non, la commission ne décide pas. Alors, Florian Philippot, juste, qui décide dans l'Union européenne? C'est les chefs d'État et de gouvernement et c'est le Parlement européen.
Problème fondamental, c'est que nous avons aujourd'hui une Europe qui est à la fois très loin des gens et très proche du monde de l'argent. Vous savez que pour chaque
Madame Oiseau,
en avance par rapport à Madame Oiseau.
On va parler de théorie.
Nicolas Dupont-Aignan.
Monsieur Soto, je crois que la France.
Non, s'il vous plaît, vous êtes à 4 minutes, sinon vous allez nous quitter avant les autres. Ce serait dommage. Jean-Christophe Lagarde. On va redevenir un peu plus sévère parce que là, vous respectez plus.
Moi, j'ai eu du mal à rentrer dans ce débat parce qu'en fait, je regardais et je me disais, mais pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose de commun? Et je me mettais dans la tête du téléspectateur. Je sais que c'est pas du tout bien de faire ça. Et on exposait des idées et finalement, c'était presque les mêmes.
Voilà, le premier débat politique des européennes a donc eu lieu jeudi soir sur France 2 et sur France Inter. Animé par Thomas Soto et Alexandra Ben Saïd, il réunissait les 12 têtes de liste déclarées qui ont débattu, et je mets le mot entre guillemets, pendant plus de 3 heures sur deux thèmes préalablement définis, les frontières de l'Europe d'abord, la fiscalité et l'écologie ensuite. Alors que retenir de ce débat, tant sur la forme que sur le fond, et plus largement, à quoi sert le débat politique à la télévision et est-il seulement possible? Voilà la question que nous allons poser à nos deux invités ce matin. Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture, bonjour et bienvenue Stéphane. Et Arlette Chabot, bonjour Arlette Chabot.
Bonjour.
Vous avez organisé et présenté un certain nombre d'émissions et de débats politiques, mots croisés, à vous de juger. Je ne les cite pas tous, il y en a eu beaucoup, des débats avant le second tour de la présidentielle en 2007, des débats européens également. Vous avez été directrice adjointe de l'information de France 2 et aujourd'hui vous êtes journaliste à LCI où vous animez chaque jour de 17h à 18h, une émission qui s'intitule Le débat.
Et donc voilà,
vous étiez vraiment toute faite pour venir ce matin parler de ce débat politique à la télévision. Alors, on va évidemment commencer tout simplement par ce qui s'est passé jeudi soir. Je lisais Guillaume Tabar dans Le Figaro hier, qui dans son éditorial écrivait « Le débat a tenu ses promesses, deux points, celle de confirmer l'impossibilité d'un échange réel ou approfondi à 12. » Qu'en avez-vous pensé l'un et l'autre? Est-ce que c'était un bon débat politique ou est-ce que c'était la cacophonie? Vous avez tous les deux été de très bons. Là, vous allez regarder jusqu'au bout, quasiment.
Pas tout à fait, je confesse.
Stéphane Robert.
Bon débat, on a parlé d'Europe. Il y a certaines choses qui sont apparues, ça c'est vrai. Maintenant, je pense que la forme a terriblement nui au fond. Les questions, on les a survolées, ça a été assez succinct, même si quelques candidats ont pu développer des idées un peu compliquées. Je pense à François-Xavier Bellamy, par exemple, qui a développé sa notion de double frontière. Manon Aubry, pour la France Insoumise également, a développé un certain nombre d'idées en essayant de poser cette idée et de l'élaborer en 1 minute 30. Mais le cadre très contraint, 1 minute 30, le droit de réplique, 30 secondes, le fait qu'on ait 12 candidats, faisait que un candidat avait une chance de s'exprimer toutes les 20 minutes ou 25 minutes.
Et au final, sur les 3 heures, ils ont parlé à peu près 10 minutes.
Donc c'est très contraint, ça donne lieu...
Avec un clignotant rouge et un gong.
Et un gong, et avec quelqu'un qui fait la police en permanence, c'était Thomas Soto en l'occurrence. Et ça donne quelque chose, finalement, on a des punchlines, des phrases qui rassemblent une idée sur 10-15 secondes. Et c'est beaucoup ce qu'on a vu.
Alors là, c'est une idée générale de ce que vous avez vu, que je vous demande. On va rentrer dans les détails, bien entendu, et nous avons le temps. Arlette Chabot, on a parlé d'Europe, mais la forme a nuit au fond. Vous partagez l'avis de Stéphane Robert?
Évidemment, c'est presque impossible. En fait, ce qui est important, parce qu'il y a déjà eu, vous avez vu, l'écran est souvent découpé en deux, donc ça fait 6 plus 6, voilà, les 12 ensemble, ça ne tient pas à l'image, donc c'est quand même assez étonnant. Ça n'est pas évidemment raisonnable, et je crois que ce qui compte dans ces cas-là, c'est que finalement, je pense que les gens, les Français, les téléspectateurs qui ont eu le courage de regarder, n'ont pas regardé longtemps, en fait, ce qui reste, c'est la photo, et une petite idée sur chacun, surtout qu'en l'occurrence, il y avait les habitués de la politique, ceux qu'on connaît depuis des années, et puis les nouvelles têtes, et donc du coup, c'est comme l'image, vous regardez la photo et vous dites « tiens, celui-là, il est pas mal » ou « ah, celle-là, elle a l'air sympa, non ?» ou on retient un petit élément. Donc, je dirais, et franchement, c'est ça qui reste. Après, je suis tout à fait d'accord, quand on a très peu de temps pour parler de sujets aussi complexes et qu'il faut quand même surtout, dans ces débats, se démarquer de son concurrent immédiat. Le marché de l'écologie étant, par exemple, très disputé, il faut montrer qu'on est meilleur écolo que le voisin qui est vert, alors que soi-même, on en a beaucoup. Bref, ça joue entre 3 ou 4, donc il faut aller vite, punchline. Et là, on voit bien quand même, après le débat, que les habitués de la politique politiques sont plus à l'aise, que les nouveaux essayent de se frayer un chemin et que les intellos ont plus de mal que les autres.
Vous pensez à qui ?
Je pense à François-Xavier Bellamy et je pense à Raphaël Glucksmann.
Et quand vous dites qu'ils avaient plus de mal que les autres, vous voulez dire quoi ? De quel point de vue ?
Je pense qu'ils ont une pensée un peu différente. Peut-être qu'ils ont l'habitude et du temps pour s'expliquer, d'habitude développer effectivement une argumentation. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai pour François-Xavier Bellamy, et en ce qui concerne Raphaël Glucksmann, il était un peu spectateur. On se disait au bout d'un moment, il doit s'interroger, mais qu'est-ce que je fais là?
Ben, c'est un peu ce qu'on a entendu dans le montage sonore réalisé par Jean-Christophe Francis, qui était dans sa conclusion finale. Ils avaient chacun une minute pour conclure, et c'est ce qu'a dit Raphaël Glucksmann. Finalement, effectivement, constat d'échec, qu'est-ce que je faisais là?
Surtout qu'il était tout à droite, c'est-à-dire qu'il regardait, pouvait regarder tous les autres, donc il avait...
C'est pas lui qui l'avait choisi. De fait, effectivement, vous avez utilisé déjà Stéphane Robert le mot, le tirage au sort. Ils étaient tous tirés au sort, mais à tout moment. C'est-à-dire que pour les disposer autour de l'arc de cercle, ils avaient été tirés au sort pour savoir qui allait entrer en premier sur le plateau, pour savoir qui parlerait en premier au début, donc, et qui parlerait en premier à la fin dans la conclusion. Et même l'horaire d'arrivée des candidats en studio et l'attribution de loges ont fait l'objet d'un tirage au sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas complètement ridicule, Stéphane Robert?
Ah ben, c'est la vie politique aujourd'hui. Elle est de plus en plus rythmée de cette façon-là. On est contraint par le CSA à faire, on nous impose des règles, globalement, je parle pas que de ce débat, mais à nous, on compte en permanence le temps de parole.
Mais là, on n'est pas encore dans la campagne, qui commence le 15 avril.
C'est le cas pour nous en permanence. On a des comptes rendus à faire tous les trimestres. On tient des tableaux avec des pourcentages et où on rend compte, il y a tant pour l'exécutif, il y a tant...
Mais ça s'appelle le pluralisme, Stéphane Robert. Oui, c'est exigé par le CSA. Là, c'est la chaîne publique qui a décidé ça.
Oui, on a des rappels à l'ordre en permanence. C'est pas qu'en campagne électorale. Et je vous assure que c'est de plus en plus compliqué. Nous, on passe de plus en plus de temps à tenir ces tableaux-là pour faire respecter le temps de parole de chaque candidat.
C'est nouveau, très compliqué. Ça. Alors, le temps de parole, on va y revenir, et l'égalité en particulier, l'égalité stricte, là, qu'on a vu jeudi soir sur le plateau, mais cette mode du tirage au sort pour les débats, pour qui va parler en premier, pour surtout pas faire de jaloux. Vous avez connu ça, Arlette Chabot, vous l'appliquiez,
oui,
vous l'organisiez aussi.
Oui, j'ai même connu jusqu'à la température du studio.
C'est normal, pas qu'il y ait trop chaud, trop froid.
Ah oui, mais il y en a qui sont froids, il y en a qui sont chauds. Donc, vous voyez, il y a un moment où ça devient
on
compliqué.
On tire au sort
de...
pour savoir à combien on
voilà,
chauffe
il faut
studio.
Essayer de trouver une voie moyenne pour que celui qui a peur de transpirer, parce que c'est pas bon pour l'image, ne mettent pas en péril les poumons de la personne qui est en face, qui n'a pas l'intention d'éternuer au milieu non plus de la conversation. Donc tout ça est effectivement compliqué, codifié de plus en plus. Et là, il ne faut quand même pas oublier une chose dans ce débat, c'est qu'il y a eu l'intervention de la justice. Ce n'était pas les règles, ce n'est pas le CSA. C'est qu'il y a quand même des candidats qui ont saisi la justice.
Ils étaient trois.
Ils étaient
Benoît
trois.
Hamon, Asselineau, Philippot,
qui ont demandé au juge de pouvoir intégrer le groupe
qui n'était
pas invité au départ.
Puisque le Conseil d'État a conclu que France Télévisions n'était pas obligé
d'être. Absolument.
Après que le tribunal administratif de Paris avait forcé la chaîne publique à
accepter
ces trois candidats.
Et donc la chaîne fait appel, le Conseil d'État dit qu'effectivement on est hors règle du CSA, donc en gros il y a une liberté d'organiser le débat, et parce que à la fois France Inter et France Télévisions sont gentils, ils représentent le service public, ils ont finalement gardé les trois. Mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. On est, rappelez-moi, en 2019, c'est ça. Il y a des chaînes partout, il y a la multiplicité des réseaux, des canaux, des écrans pour s'exprimer. Il y a des règles du CSA qui, effectivement, je suis d'accord, sont encore extrêmement contraignantes. On va encore offrir une campagne officielle, un truc incroyable de modernité. Et en plus, on rajoute maintenant un tribunal qui, finalement, force quand même le service public, même s'il y a l'appel du Conseil d'État, à prendre tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait depuis le début... Déjà, c'est compliqué quand il y en a 9, mais alors quand on en a 12, et encore, il y a Nathalie Arthaud qui peut se plaindre parce qu'effectivement, elle est aussi écartée. Donc là, je trouve que c'est quand même un retour en arrière dingue, quoi.
Vous auriez accepté
incroyable.
D'animer un débat comme celui-là? C'est amusant à faire ou c'est juste très très contraignant?
C'est pas amusant du tout, c'est pas du tout amusant parce que c'est vraiment... Vous parliez du pauvre Thomas Soto qui était effectivement dans le rôle
de la
fambule, du censeur, de la police en permanente. Vous êtes obsédé parce qu'en plus, évidemment, chacun veille scrupuleusement, comme il y a très peu de temps au bout du compte. Ça fait 3 heures d'émission, mais quelques minutes. Et franchement, d'ailleurs, je me dis que moi, j'aurais été un des candidats retoqués. J'aurais dit, OK, pour le débat, je n'y vais pas. Mais on m'aurait offert 7 minutes au journal de 20h de France 2, j'aurais dit banco, parce que franchement, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour développer son programme.
Arlette Stéphane Chabot, Robert. Le débat que vous aviez animé en 2009 pour les européennes, déjà, il y avait 8 candidats. Est-ce que c'était réellement différent? Vous avez le sentiment que c'était plus
facile? C'était déjà presque un cauchemar. D'abord, à l'époque, on était assis et pas debout, et on avait réparti, j'avais fait plusieurs débats des européennes, 4 et 4 à 8, c'est-à-dire 2 tables, et on pouvait passer d'une table à l'autre. Les candidats étaient assis, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'était déjà extrêmement difficile et je peux vous dire que j'avais failli partir au milieu du débat, arrêter tellement c'était insupportable, parce que ils étaient tellement dissipés, agressifs, et pour vous dire la vérité, on avait fait un programme, on s'était pris la tête sur comment répondre aux questions que se posent les Français sur l'Europe avec un vote important, on avait imaginé plein de choses qu'on n'a jamais pu utiliser parce que c'était une salle de classe dissipée, insupportable.
Là, il y avait deux thèmes prédéfinis, hein, donc les frontières d'abord et puis fiscalité, un paquet fiscalité, écologie. Ensuite, pour une soirée qui a duré plus de 3 heures, peut-être que on aurait mieux fait de séparer en 2 soirées avec vraiment un grand thème à chaque fois pour qu'ils aient plus de temps, je sais pas.
Il faut reconnaître que la solution, elle est pas évidente à trouver. Vous avez 12 candidats, vous en sélectionnez 9 au départ, on vous en impose 3 autres. Vous acceptez de le faire, vous êtes plus obligé, mais finalement, à quelques heures de l'émission, vous pouvez pas les décommander, donc vous le faites malgré tout. Il faut bien faire avec. On a une émission qui dure 3 heures, faire plus, c'est compliqué. Faire avec moins de candidats séparés en 2, oui, mais comment on sélectionne avec qui? C'est très compliqué. Effectivement, il faut reconnaître que la chaîne a fait du mieux qu'elle pouvait.
Oui, et puis on a pu voir pire, dans le genre débat politique. Mais malgré tout, Arlette Chabot, quel est l'impact et puis peut-être quel est l'intérêt? C'est-à-dire que quand vous en avez animé, en particulier, je pense à ces débats de campagne européenne, qu'est-ce que vous disiez avant? Stéphane Robert disait, c'est vous d'ailleurs qui le disiez tout à l'heure, on a retenu un petit peu de chacun. C'est ça l'idée, c'est présenter une sorte de carte postale ou de carte d'identité de chaque candidat pour qu'il puisse dire un tout petit peu de sa vision politique, c'est ça qu'on retient du fond, ou c'est aussi faire preuve de pédagogie pour le public qui regarde, c'est-à-dire, voilà, vous allez voter, ça fonctionne comment, ces élections, elles servent à quoi, les listes, le scrutin, etc.
Quand j'insiste beaucoup sur la photo, parce qu'il y a beaucoup de visages inconnus, nouveaux, et donc pour ceux qui quand même ont envie de s'intéresser aux européennes et pourraient même avoir l'idée d'aller voter,
vous êtes qui sait,
qui sait, hein, il y a beaucoup d'abstention. Vous avez envie de voir ces têtes nouvelles. Il y a une promesse de renouvellement au travers de ces élections européennes, hein, des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent de la société civile. Je pense ces militantes, Manon Aubry, mais quand même, par exemple pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon ou Manon Aubry, c'est pas pareil en plateau. Effectivement, pour des gens qui regardent. Et il y a eu un débat sur une chaîne d'information il y a quelques semaines avec justement des chefs de parti. Ou alors là, on se disait, c'est le vieux monde qui est là, hein. Un jeune, moins jeune, un peu plus vieux, il y avait zéro renouvellement. Donc là, il y a quand même effectivement un espoir de renouvellement avec un langage nouveau, avec peut-être plus de spontanéité. Donc on était intéressés. Donc il y a un truc visuel, tout simple. On regarde et on se dit, ah finalement, celui-là, il m'intéresse. Après, des échanges aussi rapide sur des sujets aussi complexes, parce que l'Europe, c'est quand même super compliqué.
Et 30 secondes pour répondre quand un candidat est pris à partie par un autre. 30 secondes.
C'est alors que, encore une fois, les sujets sont effectivement difficiles. L'immigration, c'est pas oui, bien sûr, j'accueille tout le monde. Ah non, je veux personne. Les frontières, c'est des sujets combien complexes. On peut pas répondre comme ça. Donc, il faut effectivement un petit peu de temps. Et là, c'est pas possible. Donc, on en reste à quelques formules. Au début de l'émission, il y avait un objet que chaque tête de liste devait apporter. On retiendra, voilà, la passoire de Jordan Bardella.
Mais vous retenez plus la passoire que la vision politique qui se dégage. C'était quand même
l'idée. Ça veut dire quelque chose en même temps. C'est assez lié. Donc finalement, on se dit la passoire. J'ai compris. Il va nous parler d'immigration. Voilà, il y a des trous. C'est ça. Donc les cadenas, d'Asselineau, vous dites, j'ai compris. L'Europe, elle nous en sert et on peut pas s'en sortir. Donc finalement, on reste à ça et. Évidemment, c'est assez révélateur de ce qu'il pense, la pensée forte de chacun sur la ligne, mais c'est évidemment un peu réducteur quand même.
Stéphane Robert.
Bien sûr que c'est réducteur. Déjà, on voit, l'émission a été séparée en deux blocs. Hein. D'abord, les institutions, les questions régaliennes, avec la question migratoire, avec le Brexit, on a parlé, et puis après, les questions économiques et sociales. Et finalement, dans la première partie, on a parlé de quoi? Du Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On a parlé des migrations, essentiellement, voilà, pour la première partie. Et la deuxième partie, on a parlé d'écologie et on a parlé de questions budgétaires, fiscalité et un peu des questions sociales. Et on s'est aperçu quoi, globalement? Ce qui nous reste, c'est ça, c'est des impressions globales. il n'y avait aucun candidat qui était favorable à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Ils critiquaient tous l'Europe. Ils étaient tous d'accord pour dire « ça ne va pas ». Ils n'étaient pas d'accord sur la solution apportée. Il y avait ceux qui disaient bah, « il faut sortir de l'Europe » et il y a ceux qui disaient bah, « non, il faut l'aménager et on va pouvoir le faire ».
C'est un peu ce qu'on leur demandait quand même. On leur demandait « dites-nous l'Europe que vous souhaitez et l'Europe que vous dénoncez ».
Oui, mais ils en sont restés à une idée générale de bah voilà, on va mettre la frontière aux limites de l'Union européenne ou alors on va remettre les frontières aux limites des États-nations comme on les connaissait jusqu'ici. On n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Et donc, c'est là où c'est assez réducteur, finalement. Ce qui nous reste, ben, c'est ça. C'est des idées un petit peu simples de comment chacun se positionne par rapport à des grands thèmes européens qu'on n'a pas finalement creusés. Pas suffisamment, en tout cas.
Arlette Chabot, est-ce que c'est pas, au fond, l'exercice lui-même du débat politique à la télévision qui est vicié? Alors, est-ce que ça, c'est juste la question du nombre?
Drôlement pessimiste ce matin, vous.
Est-ce que, vous dites 12, 12 ou 8, mais à 8, ça n'avait pas l'air d'être mieux. Comment éviter de faire fuir le téléspectateur, surtout aujourd'hui, où vous le dites vous-même, l'offre est constante? C'est pas seulement une question de nombre.
Ouais, je suis pas d'accord, parce qu'au fond, il n'y a jamais eu autant de débats. On a bien vu lors de précédentes élections, et notamment de l'élection présidentielle, à quel point tous les débats ont marché, à la fois primaire.
Là, c'est 9% de part d'audience, c'est moins de 2 millions de téléspectateurs, et France 2 a été derrière la série policière de TF1, M6, France 3.
Ouais, mais voilà. D'accord, mais parce que on vient d'en parler, c'est quand même quasiment infaisable et on peut pas en vouloir à ceux qui ont organisé cette émission d'avoir été dans une telle difficulté. Voilà, c'est
donc
évident.
Un débat politique à la télévision, mais c'est possible. Vous en avez fait
oui,
des bons.
Oui, mais il y en a plein. Regardez, franchement, j'insiste, l'élection présidentielle, ça a montré. Il y a eu des débats. On disait les primaires à l'intérieur de chaque camp, ça a marché. Les débats entre les candidats, premier tour, évidemment, deuxième tour, entre tout le monde, les uns, les autres. Il y a eu beaucoup de débats et la tension a été forte. Là déjà, c'est l'Europe. Donc déjà, il y a moins de passion. Deuxièmement, c'est des sujets, encore une fois, toujours très complexes, les sujets européens, par définition, et les Français sont moins familiers de ces sujets. Si vous dites retraite à 62 ans ou retraite à 65 ans, vous comprenez. Si on dit frontière intérieure, frontière extérieure, vous faites allusion à un traité que tout le monde a oublié, voilà, bon. C'est difficile, donc à chaque fois, il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu de pédagogie ou de... Donc c'est difficile, donc... Mais je crois pas du tout que les débats soient condamnés. Au contraire, franchement, s'il n'y a pas de débat, il n'y a plus de démocratie non plus. Hein. Donc c'est important la confrontation, mais il faut que la confrontation, l'échange d'idées... Je me disais, alors tous ces candidats de gauche, là, c'est la question qu'on se pose depuis le début. Alors, il y a un candidat qui représente le PC, il y a Le Vert, il y a Glucksmann, il y a Benoît Hamon. Moi, j'avais envie de leur dire, bon, attendez, on va faire un débat à côté. On va essayer de comprendre ce qui vous sépare et qui vous rassemble. L'Europe sociale que vous voulez, l'écologie, où est le curseur? Il y en a un qui a un plan à 100 milliards, l'autre a un plan à 300 milliards. Je comprends rien, vous les mettez en millions, je comprends pas. Vous avez envie de faire des débats séparés. J'avais envie d'un débat avec la droite, François-Xavier Bellamy, à côté de Jordan Bardella, à côté de...
Et puis
Nicolas
on voyait
Dupont
bien Nathalie
Aignan.
Loiseau et voilà. Jordan Bardella qui avaient assez envie de discuter tous les deux et de s'envoyer des pistes.
Ils avaient envie d'un débat entre eux, voilà. C'est autre chose.
Donc effectivement, les alliances et les duels se dégagent. Et plus largement, donc pour terminer, Stéphane Robert, est-ce que c'est possible, selon vous, un débat politique à la télévision? Aujourd'hui. À quelles conditions ?
Il y a un autre phénomène qui explique ce qui s'est passé, c'est l'individualisation de la vie politique. Si vous prenez rien que la gauche, vous avez 4-5 candidats qui disent peu ou prou la même chose. Ils sont pas très loin les uns des autres. Mais ils estiment avoir chacun un discours personnel à porter et ils le mettent en avant, ils se mettent en avant. C'est pour ça qu'on a 12 candidats. C'est qu'il y a des candidats qui portent à peu près le même discours que le gars d'à côté, mais ils estiment que c'est eux à même de mieux le porter que l'autre. Du coup, on a ce phénomène d'atomisation, en quelque sorte, des candidatures de la vie politique qui explique le fait que c'est de plus en plus difficile.
Donc il faut réinventer un modèle de débat politique qui est adéquat.
Je crois que ça correspond à ce que deviennent nos sociétés. De plus en plus, on a un individualisme et des égos qui se développent de plus en plus et on a en parallèle des personnalités politiques dont les égos se mettent de plus en plus en avant et c'est ce qu'on a vu hier soir.
Moi j'ajouterais juste, laisser les journalistes travailler, imaginer les débats comme ils le veulent, c'est pas des abrutis tout le temps les journalistes, ils peuvent imaginer ce qui peut intéresser les téléspectateurs et comment on peut avoir un débat clair, donc il y a des règles, c'est bien, le pluralisme c'est super, on respecte, mais laissez les journalistes travailler aujourd'hui s'il vous plaît.
À bon entendeur, salut, merci beaucoup Arlette Chabot, merci beaucoup Stéphane Robert, à très bientôt.